La Bourse avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
Tendance à la baisse, Cédric Decoeur.
Et oui, Claire, une séance de forte hausse, puis une séance de prise de bénéfices, puis de nouveau une séance de forte hausse et une séance de prise de bénéfices. Bref, depuis le début de la semaine, le marché parisien alterne ce type de journée avec une belle régularité. Après la nouvelle envolée affichée hier, le CAC 40 abandonne donc aujourd'hui 0,23%. Il est à 4589 points, le tout dans un volume d'affaires modéré d'1,5 milliard d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs en Europe, les autres marchés d'actions suivent le même chemin, puisque Francfort perd 0,38%, Londres moins 0,33%, et l'euro First 80 abandonne 0,31%. Et puis, du côté d'échange, le billet vert, lui, reste ferme contre la monnaie unique européenne. L'euro cote actuellement 1,2057$. Voilà, Claire, je vous rappelle, le CAC 40, qui cède 0,24%, il est à 4588 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
L'arrivée du Quintet Plus au Lion d'Angers. Pour gagner, il fallait jouer le 14, le 2, le 6, le 9 et le 11. 14, 2, 6, 9 et 11. Il est 14h03 sur France Inter. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Géminet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire de la photographie. Un centième de seconde par-ci, un centième de seconde par-là, c'est une, deux, trois secondes volées à l'éternité. Robert Bonnet. D'histoire. Quand ils peignaient les grottes de Lascaux avec leurs mains, du kaolin et de l'oxyde de fer, nos plus lointains ancêtres ne savaient pas que 20 000 ans plus tard, nous ferions à peu près la même chose en appuyant sur le déclencheur d'un appareil photo. Voler à l'éternité, comme le disait Doineau, les images du monde dans lequel nous vivons, les reproduire et les fixer sur de la pierre, du papier ou aujourd'hui un disque dur est un des plus vieux rêves de l'humanité. Celui qui, il y a près de deux siècles, avait poussé deux Français à faire une des plus belles découvertes de l'histoire des techniques, la photographie.
Nous sommes à Cormeil en Parisie, nom charmant d'une petite ville toute proche encore de la capitale, mais dont le cachet garde l'originalité de ce terroir de la vieille cité de France, dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Une petite vallée rieuse que domine une église au toit d'ardoise, une grande rue tortueuse, des places toujours occupées par des enfants jeunes et bruyants. Ils ont dû, pour quelques minutes, ces enfants, céder la place à des personnalités considérables venues inaugurer une statue dédiée à l'inventeur de la photographie, Daguerre, dont le nom allié à celui de Niepce restera la fierté de Cormeil en Parisie.
Cormeil en Parisie, ça a été en effet à la fois le berceau de Daguerre et la première inspiratrice de la photographie française.
Quant à Jacques, bonjour.
Bonjour.
Alors avant d'évoquer avec vous l'évolution de la photographie depuis son invention, évolution dont vous rappelez les étapes dans un livre qui vient d'être publié chez Gallimard Découverte, j'aimerais qu'avec vous, on revienne précisément sur cette invention. Et elle a un point commun au fond avec beaucoup de grandes inventions. Je pense à l'avion, je pense à l'automobile ou au vaccin dont tout le monde se dispute la paternité. Au fond, on ne sait pas très bien qui, de Daguerre, on l'a entendu, ou de Niepce, a inventé la photographie.
C'est vrai que c'est une question qui a beaucoup agité les milieux historiques sur la photographie au 19e et qui continue également à l'agiter sur les apports respectifs des deux hommes. Alors je pense qu'il convient, contrairement à ce qui a été affirmé lors du document sonore que nous avons écouté,
qui date de 57,
voilà, de redonner la paternité de la photographie à Nicéphore Niepce, qui est bien celui qui a, dans le plus grand secret et seul, véritablement mis au point le premier procédé photographique, c'est-à-dire un procédé qui permet de fixer de manière durable sur une surface sensible les impressions de la lumière, de l'avoir réalisé et de l'avoir baptisé héliographie, donc écriture par le soleil. Là, on était dans les années 1820. Alors par la suite, Daguerre s'est associé avec Niepce, et à la mort de ce dernier, il a poursuivi des recherches dans une autre direction, mais en s'inspirant des travaux antérieurs de Niépce, qui ont mené à la mise au point d'un procédé qu'il a baptisé de son nom, le daguerréotype. Alors c'est vrai que traditionnellement, on date de 1839, qui est la date de la divulgation, de la publication de ce procédé daguerréotype, la naissance officielle de la photographie.
Mais ça, c'était à l'Académie des sciences, grâce à Arago, hein, qui en était le secrétaire perpétuel, et on dit que c'est 1839, et comme Niépce était mort en 33, au fond, c'est ça qui explique le fait que parfois on dit que c'est daguerre.
C'est ce qui explique, et c'est ce qui explique en effet aussi cette querelle de paternité. Reste également à dire que, bien évidemment, Niépce, pas plus que daguerre, n'ont inventé un certain nombre d'éléments qui préexistaient à leur invention. L'utilisation de la chambre noire remonte à l'Antiquité, et on en trouve des exemples chez Aristote, par exemple, ou par la suite, l'utilisation de les études autour de la sensibilité des sels d'argent étaient nombreux au XVIIIe siècle.
Donc, il invente en fait qu'un procédé, le moyen de fixer des images qu'on pouvait déjà obtenir dans des chambres noires depuis des siècles, hein, fixer des images grâce à un procédé qui d'ailleurs va lui-même évoluer jusqu'à aujourd'hui, hein, avec le numérique. À quoi ça ressemblait à la fin, disons, du 19e siècle, une séance de photographie?
Alors, à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire, on va dire, avant l'arrivée de l'instantané, dans les années 1870 et 1880, la photographie demeure une pratique d'atelier. C'est-à-dire, on va dans l'atelier du portraitiste se faire tirer le portrait. La séance de pose peut-être encore longue, les temps de pause ne sont pas des temps de pause très, 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 très rapides. La chimie est encore complexe, l'opérateur a besoin d'avoir un certain nombre d'éléments pour réaliser une prise de vue correcte. Ça reste donc une opération très 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 complexe techniquement et qui reste l'apanage des professionnels.
S'il vous plaît, mesdames et messieurs, essayez de trouver la place que nous avons spécialement déterminée pour chacun d'entre vous. Les bougies sur la diligence, allez-y doucement. Je sais que les dames assises à l'intérieur sont peut-être ravies de jouer à dada sur leur banquette, mais ça abîme le matériel et gâche la photographie. Dans 100 ans et même plus, cette photographie sera toujours dans les archives. Ne l'oubliez pas. C'est par elle que les générations futures vous connaîtront.
Attention, regardez le petit oiseau. Que chacun retienne son souffle.
Vous pouvez tirer la photographie maintenant.
C'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les s'oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Parce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier. Et ces paras qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Parce que c'est beau, la photographie, bougeons plus, l'amour va passer. Y'a pas de raison pour qu'on oublie, ça coup de gueule sur l'instantané.
Ne bougeons plus,
en noir et blanc, ne voit pas comme nous.
Sur l'amateur, mais une main ouvre l'album et tout se retrouve en couleur. Parce que c'est beau, la photographie, touchant plus la va passer. 1, 2, 3, 7, la plus jolie, agrandie, l'encadrerie.
Ne bougeons plus.
La dimension, 1, 2, 3, j'appuie.
On sourit.
Que c'est beau, la photographie des frères Jacques dans les années 60, à une époque quand même où elle avait fait beaucoup de progrès depuis Niépce. Quand Jacques, on a évoqué ce qu'était une séance de photos à la fin du 19e, disons. En ce qui concerne les supports, hein, puisque justement, c'est ce qu'invente en fait Niépce au tout début d'ailleurs du 19e siècle. C'était quoi les premiers supports sur lesquels on voyait des photographies justement?
Les premiers supports, que ce soit l'héliographie ou le daguerréotype, étaient d'abord, c'était des pièces uniques. Donc non reproductible, qui n'était pas obtenu par le passage par un négatif. C'était des supports souvent métalliques, cuivre, étain, recouvert d'une mince couche d'argent. Alors par la suite, c'est vrai qu'on a mis au point des procédés négatifs positifs, qui sont finalement les ancêtres de la photographie telle qu'on la pratique aujourd'hui, avec des négatifs qui pouvaient être là aussi sur supports différents. Tout d'abord un négatif sur papier, ça c'est l'invention de l'anglais Talbot en 1840, et puis après des négatifs qui ont été sur verre le plus souvent, négatifs à l'albumine, au collodion, les tirages étant bien évidemment sur papier, mais un papier souvent bien plus épais que les papiers qu'on utilise actuellement.
Et la celluloïde, enfin disons les grosso modo les pellicules telles qu'elles existent.
Alors telles qu'elles existent, maintenant, c'est-à-dire les films souples, que ce soit en effet nitrate, diacétate, etc. de cellulose, apparaissent dans les années 1880. Et là, véritablement, c'est quand on entre dans l'ère du gélatino-bromure d'argent, et notamment le premier appareil Kodak, qui a introduit un bouleversement des pratiques, était livré avec un film rouleau.
Oui, là, ça devient industriel. Jusque-là, c'était un peu un artisanat, très peu de gens les pratiquaient, les appareils coûtent extrêmement cher, et avec Kodak, bien sûr, et eh bien ça devient une véritable industrie, alors qui s'occupe de tout. Hein. Le slogan de Kodak, le premier, c'était, je crois, vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste. Hein.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que finalement, la photographie se réduit à l'opération de prise de vue. Plus besoin de compétences techniques particulières, plus besoin bien évidemment d'aller dans l'atelier. Donc on a une photographie beaucoup plus libre, beaucoup plus rapide, parce que les temps de pose sont bien moins longs. Les appareils sont plus maniables, parce qu'on a fait des progrès dans le domaine de l'agrandissement, donc on peut réduire les négatifs. Et on voit, c'est vrai, apparaître une nouvelle génération ou catégorie de photographes amateurs, qui sont d'ailleurs parfois des femmes et des enfants, qui sont un des publics potentiels privilégiés de ces nouveaux fabricants, et en effet apparaître de véritables industries. On a parlé d'Eastman Kodak aux États-Unis ou son équivalent en France avec les usines Lumière.
Alors le temps de pose étant assez court, ce qu'on appelle l'instantané, il n'y a plus besoin de trépied, l'appareil se réduit petit à petit. C'est justement ça le génie de Kodak, des appareils assez petits, au fond, à la portée un peu de tout le monde, comme cet amateur né au début du XXe siècle et qui deviendra célèbre et qu'on écoute ici au micro de Thierry Beccaro de Radio Bleu en 1982.
Robert Bonneau, vous souvenez-vous de la première photographie que vous avez faite avec votre premier 6-6?
Ah, c'était même avant le 6-6, c'était avec un appareil en bois, c'est un tas de pavés. Oui, parce que comme je n'osais pas par timidité lever les yeux sur les gens vivants, j'avais photographié des matières. Un tas de pavés. Après, la deuxième photo, c'était un bec de gaz, enfin, le tronc, si je puis dire, de l'arbre, avec tous les petites scories, la peinture qui dégouline.
Alors, dans votre jeunesse, rien ne vous destinait à devenir photographe, puisque votre père était couvreur.
Ah oui. En réalité, la photographie, au moment où j'ai eu l'âge de prétendre pratiquer la photographie, c'était considéré comme un petit peu un métier de forain. Camelot, forain, comme ça, c'était pas sérieux, pas très bien vu. Ma tante, il disait, mon petit-neveu fait des études de gravure, elle ne voulait absolument pas que je sois photographe. Photographe, c'était un truc assez moche, enfin, oui. Vous savez, toujours, dans les films, dans les romans, le faux monnayeur, c'est le photographe.
C'était la honte hein, d'être photographe au début du XXe siècle, hein, douaneau, c'est quand même extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, Quentin Bajac.
Oui, c'est vrai que c'était pas une pratique noble.
C'était pour des rigolos, quoi, des saltimbanques.
C'est ça, c'était c'était finalement encore une distraction de foire. Et c'est vrai que c'est devenu une pratique noble tard dans le siècle, même si finalement, pratique noble, artistique, ça a toujours été un débat qui a agité la photographie depuis ses débuts.
Et d'abord, oui, c'est parce qu'on a inventé l'appareil photo, qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, on tire le portrait des portraits de famille, qu'on se passe, qu'on conserve, qui rappelle des souvenirs, c'est pas encore un art, c'est déjà quand même, les premiers à s'y intéresser vraiment, ce sont des scientifiques, indépendamment des amateurs, bien sûr, vous l'évoquez.
Oui, c'est vrai. Arago le premier. Arago a soutenu Daguerre. Arago était bien évidemment ce grand astronome que l'on connaît. Mais par la suite, c'est vrai qu'un certain nombre de scientifiques, notamment dans les domaines de l'astronomie, à la suite d'Arago, mais pas seulement, dans les domaines de la médecine et d'autres, se sont intéressés à la microphotographie, à la macrophotographie,
à la chronophotographie. Il faut rappeler ce que c'est. Hein.
Alors la chronophotographie, c'est cette invention d'Étienne Jules Marais dans les années 1880, qui consiste consiste finalement à mettre au point un dispositif de photographie qui permet de décomposer le mouvement et qui est là encore l'ancêtre du cinéma, puisqu'après avoir décomposé le mouvement, quelques années plus tard, on le recomposera à l'aide de la projection.
Ah, c'est comme ça qu'est venu le cinéma.
C'est comme ça qu'est venu le cinéma.
Sans la chronophotographie, il n'y aurait pas de cinéma.
Non.
Et c'est comme ça qu'on a découvert des choses qu'on ignorait totalement. Quand on voit une peinture du 18e ou du début du 19e siècle d'un cheval, on s'aperçoit que, il paraît tout à fait bizarre, parce qu'on ne connaissait pas, avant la chronophotographie, c'est-à-dire la décomposition de son pas ou de son trot, de son galop, on ne savait pas comment il marchait, comment il galopait.
Oui, c'est vrai, ça on le doit à un certain Américain qui s'appelait Edward Muybridge, qui a réalisé dans les années 1870 un certain nombre d'études, à la demande d'un entraîneur de chevaux de course, d'études sur le galop du cheval. Et en effet, on pouvait justement, par la décomposition du mouvement, par la photographie, percevoir qu'à un moment, il y a un moment où le cheval, aucune des pattes du cheval ne touche le sol. Et c'est une posture absolument invraisemblable, mais qui était pourtant bien, bien réelle.
Et d'ailleurs, justement, c'est en ça qu'elle intéresse des artistes, non pas encore parce qu'ils ont même un certain mépris pour la photographie, pour des artistes, enfin parce qu'ils prennent des photographes pour des artistes, mais parce qu'ils se servent d'un appareil photo comme d'un accessoire. C'était le cas de Degas, de Meissonnier, de Bonnard, par exemple, vous les citez.
Oui, absolument. On a des études d'après-nature qu'on pouvait soit acheter dans le commerce ou qu'on pouvait réaliser, parce qu'à partir des années 1880, et quand justement la photographie devient plus accessible à tous, on voit un certain nombre de grands photographes, de grands artistes utilisaient la photographie. Vous avez cité Bonnard, Vuillard également pratiquait la photographie, Degas la pratiquait également.
C'est-à-dire quoi? C'est qu'il photographiait ses modèles avant de les peindre, c'est ça?
Alors Degas a photographié un certain nombre de ses modèles, il a réalisé des photographies qu'il ne tirait pas lui-même, qu'il faisait tirer, mais il faisait tout de même des recherches sur la lumière, qu'on peut rapprocher de certaines de ses études, de ses dessins. En revanche, Vuillard et Bonnard avaient, on va dire, une pratique peut-être un peu plus ludique de la photographie, mais qui, par bien des aspects, recoupe certaines de leurs préoccupations sur le mouvement, sur le cadre.
Mais l'art noble, ça restait bien sûr la peinture. Quand est-ce que elle est devenue un art en lui-même, la photographie, Quentin Bajac?
Alors c'est une quête de tout le siècle. En 1859 est organisée une exposition de photographie en même temps que le salon de peinture, et on dit voilà, c'est la reconnaissance que la photographie est un art
à part entière.
En fait, on s'aperçoit que la lutte a été longue, que pendant tout au long du 19e siècle en France, par exemple, la photographie n'a pas été protégée au titre d'œuvre de l'esprit. Il y avait une loi qui était la loi de 1793 qui protégeait la peinture, la sculpture, etc. La photographie n'a pas été reconnue pendant longtemps. Alors c'est vrai que c'est une lutte. Je pense que c'est vraiment à partir des années 20-30 en France, peut-être un peu plus tôt aux États-Unis, qu'à l'initiative d'un certain nombre d'artistes et de photographes, on s'est aperçu que la photographie pouvait devenir une discipline artistique à part entière. En fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, la photographie a été écartée de la sphère des beaux-arts au 19e siècle parce que c'était du domaine de la reproduction, que c'était un outil mécanique. Donc, il y avait l'idée qu'il y avait trop de machines et pas assez d'idéal ou de poésie.
Alors, quand elle apparaît, hein, c'est comme pour la peinture, il y a des salons, vous l'avez dit, vous citez celui de Vienne en 1891, quand même, déjà, et puis des écoles. La première que vous citez, ce sont les pictorialistes, hein, je crois, Quentin Bajac.
C'était quoi? c'est le premier grand mouvement international qui est justement entendu faire reconnaître la photographie comme une discipline artistique. Alors, paradoxalement, les pictorialistes, comme l'indique son nom, cherchent à imiter les effets de la peinture ou des arts graphiques. Ils vont avoir recours
Ils refusent, au fond, de ne se contenter de reproduire ce que prend leur appareil en photo. Ils le déforment, c'est ça?
Ils le déforment, mais ils refusent finalement le caractère mécanique de l'opération photographique, qui cherche à la dissimuler, à la masquer. Alors ils utilisent comme ça toutes sortes de subterfuges, ils ne font pas le point pour obtenir des images un peu floues, un peu bougées, qui mettent à distance le motif, ou ils utilisent toutes sortes de retouches lors du tirage, ils grattent le négatif pour obtenir des effets plus proches de la gravure ou du dessin, ou ils ont recours à des procédés de tirage assez complexes, comme la gomme bichromatée, qui leur permet justement de réintroduire des couleurs lors du tirage pour rapprocher leurs images des peintures ou des dessins.
Alors, il y aura d'autres écoles, les surréalistes, bien sûr, qui sont passionnés pour la photographie, photographie, la nouvelle photographie aussi de Laszlo Molinoc que vous citez. Alors tout ça, ce sont des artistes. Plus tard, il y aura avec justement Doisneau, par exemple, ce qu'on appelle la photographie humaniste. Hein. Alors là, elle revient à la réalité, au réalisme, et elle montre surtout des visages. Hein. C'est ce à quoi tenaient des gens aussi comme Cartier-Bresson qui disaient, au fond, le sujet le plus important, c'est l'homme.
Oui, c'est ça. C'est l'idée vraiment de recentrer sur l'homme, sur l'humain. C'est un mouvement qui commence, on va dire, dans les années 30, qui est lié aussi à des mouvements cinématographiques, parce qu'on retrouve dans le réalisme poétique de Carnet ou d'autres à cette même période des préoccupations proches, et qui sera bien évidemment accentué après la guerre, puisqu'il y a pour toute une génération, après cet épouvantable carnage, la volonté justement de remettre l'homme au centre de leurs préoccupations. Et cette photographie humaniste, elle connaîtra son apogée lors d'une exposition qui reste une des expositions importantes de la photographie au XXe siècle, qui est The Family of Man, comme l'indique son nom, la famille de l'homme, qui a été inaugurée à New York et qui connaîtra plusieurs itinérances.
Alors pas humaniste du tout, en revanche, l'utilisation de la photographie par tous les grands systèmes totalitaires. Hitler, Staline, Mussolini se sont passionnés pour la photographie qui était un instrument de propagande.
Instrument de propagande, bien évidemment, par la diffusion de l'image du chef, instrument également de contrôle. De fichage anthropométrique notamment sous le régime nazi, instrument également d'embrigadement parce que on contrôle les clubs amateurs qui se forment et on encourage justement la diffusion d'une imagerie très 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 liée au régime. Donc en effet, que ce soit Mussolini, que ce soit Hitler ou que ce soit Staline, tous se sont passionnés, ont utilisé aussi le photomontage politique, la retouche de la réalité pour la recorriger selon leur désir.
Alors, ceux qui s'y intéressent aussi ont sans doute, mais ça apparaît qu'assez tard, ça apparaît quand même au début du XXe siècle, c'est évidemment les grands journaux, les grandes maisons d'édition, l'apparition d'un genre qui va être évidemment incarné surtout par Capra, c'est le photojournalisme.
Oui, le photojournalisme apparaît en effet, on va dire, au début du XXe siècle. Il est lié à des évolutions techniques qui sont le fait que grâce au progrès des procédés photomécaniques, la photographie peut vraiment être utilisée par les journaux de manière massive et rentable à partir des années, on va dire, 1900-1910, et que par la suite vont donc se créer un certain nombre de grandes agences de photographie, dont l'une des plus célèbres reste l'agence Magnum qui se crée en 47.
Avec les photos de guerre, hein, celle de Capa justement en Espagne, avec ce soldat qui est renversé, c'est assez extraordinaire. Alors, il y a aussi, alors vous citez parmi... Je dis pas les artistes, mais enfin parmi des gens qui ont beaucoup apporté à la photo dans un genre bien particulier, comme si c'était des artistes, les paparazzi, Quentin Bajac quand même.
Oui, mais ils ont à mon avis tout à fait leur place à cette période, qui est celle finalement de la fin des années 50, qui est une période de remise en cause d'un certain nombre de pratiques, qui étaient les pratiques qu'on va dire classiques d'une photographie humaniste, et il faut rapprocher, je pense, l'esthétique des paparazzi, qui est cette esthétique assez heurtée, brutale, utilisant des zooms, d'un certain nombre de pratiques photographiques. Je pense à quelqu'un comme William Klein, qui est un des grands photographes de la seconde moitié du XXe siècle, qui a lui aussi, à cette même période, mis au point une photographie qu'il disait lui-même vouloir aussi brutale, heurtée et vulgaire que la photographie de presse, que les news, disait-il.
Bah, elle est faite pour la presse.
Elle est faite pour la presse.
Enfin, mais pour une certaine presse.
Pour une certaine presse, mais je pense qu'il y a véritablement un style paparazzi qui est
Ah oui, il y a des photos,
effectivement. Un style marquant pour cette période.
Alors bon, c'est curieux, il y a une chose qui est étonnante dans votre livre, qui est extrêmement documentée, c'est que presque toutes les photos d'artistes, en tout cas, sont des photos en noir et blanc, comme si la couleur n'existait pas.
La couleur a mis longtemps à s'imposer, tout d'abord à être inventée, puisque le premier véritable procédé en couleur, c'est l'autochrome, qui est commercialisé en 1907, donc finalement de manière assez tardive, et qui sera peu employé parce que assez lourd, assez complexe, qui sera employé par un certain nombre de grands amateurs et de plus petits dans les années 1910, 1920, 1930, mais on va dire qu'il disparaît par la suite. Alors, c'est vrai que la couleur deviendra une pratique de masse, une pratique populaire seulement dans les années 1960, et que la plupart des grands photographes de cette période, 1930, 1940, 1950, 1960 se photographieront en noir et blanc. Alors certains font quand même des essais sur la couleur, je pense à Man Ray qui a essayé notamment, d'autres coloriseront leurs épreuves au tirage ou réaliseront des expériences autour de la couleur, mais ça reste en effet dans une dimension qu'on va qualifier d'expérimentale.
Et puis avec évidemment un nouvel appareil, une révolution qui apparaît à la fin du XXe siècle, France Inter, Yves de Caen, le 10 novembre 1999.
99 années numériques. C'est moins exaltant que l'année 69, mais c'est le progrès. À l'approche de l'an 2000, après les ordinateurs et les portables l'année dernière, voilà que les appareils photo et les caméscopes numériques ont le vent en poupe. Tous les experts s'attendent à une véritable explosion des ventes. Déjà d'ailleurs, le chiffre d'affaires de la FNAC affiche une croissance exponentielle. Au rapport au téléphone de Christian Bobby, le directeur du marketing de la FNAC, Victor Jakimowicz.
Il est clair que l'évolution de la photo numérique et l'arrivée du siècle nouveau va effectivement favoriser, je crois, l'envie de mémoriser, de capturer un moment ou un instant. Je peux déjà vous dire que nous faisons un chiffre d'affaires plus important aujourd'hui sur les appareils photo numériques que sur les appareils photo réflexes dont nous sommes leaders incontestés en France. Donc on voit à quel point le numérique est en train de prendre position dans les différents secteurs et de récolter et de provoquer une croissance extrêmement importante.
La révolution du numérique, qu'est-ce qu'elle change dans l'histoire de la photo? Est-ce qu'elle est aussi importante que ça, Quentin Majac?
Alors c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire. Je pense que là, le document date de 99. On est en effet en plein maintenant dans la révolution numérique. Finalement, c'est quoi? C'est le remplacement de cette surface chimique photosensible par des capteurs électroniques. Ça induit, à mon avis, pas tellement de bouleversements du style de la photographie. On retrouve les mêmes pratiques. En revanche, en termes de d'utilisation de la photographie, il y a quand même une dématérialisation complète, beaucoup moins de tirage, une circulation beaucoup plus rapide et aisée de l'image. Et je pense que c'est ça la véritable modification. Ce qu'on voit également, c'est que finalement c'est une révolution, mais qu'une révolution qui, comme toutes les révolutions techniques, n'est pas encore totalement au point, et qu'à bien des égards, il y a par rapport à l'image et à la photographie argentique des régressions. Par exemple, si vous utilisez aujourd'hui un appareil numérique, il est difficile d'avoir une image instantanée. Vous verrez qu'il y a un tout petit décalage souvent entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où votre image apparaît sur votre écran. Par ailleurs, il y a des lourdeurs liées notamment à la difficile alimentation ou aux capacités de stockage. Donc il y a ces lourdeurs qui seront bien évidemment dans les années à venir sans doute résorbées, mais comme toute révolution, elle entraîne des difficultés. D'où un certain nombre de partisans encore de l'image argentique, parmi d'ailleurs certains grands photographes qui s'en tiennent bien évidemment à cette image.
Les vieux réflexes sont pas morts alors.
Les vieux réflexes ne sont pas morts, je pense qu'ils tendent à disparaître, mais ils ne sont pas encore morts.
Merci Quentin Majac, je rappelle que vous êtes l'auteur de La photographie à l'époque moderne, paru cette année chez Gallimard dans les collections Découvertes, et également l'auteur du catalogue d'une exposition Eurovision, Les Nouveaux Européens par 10 photographes de Magnum, une coédition Centre Pompidou et Magnum Stead, une exposition qui a lieu au Centre Georges Pompidou jusqu'au 17 octobre. À lire également La photographie dans Dérouillé, publiée cette année chez Gallimard dans la collection Folio, et puis un très très beau livre de photos de Douaneau Paris, qui vient d'être publié chez Flammarion. Vous le connaissez, vous l'avez vu?
J'ai vu.
Il est assez splendide. Hein. Alors, vous avez pu entendre un extrait du film Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman, disponible en vidéo chez Tornemi Vidéo. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, réalisé comme tous les jours par Anne Kobilac, avec Anne Le Guéhennec et Julien Chabassu. Et pour la documentation, Pierre Tesser et Camille Poux-Jalaguier. Demain, dans 2000 ans d'histoire et à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, un monstre sacré du cinéma, James...